repérage du bibliothécaire.
Bonjour, monsieur Benigno.
Bonjour, Marc. Comment ça va en ce début de l'automne qui commence bien ouais. Tassé au niveau du froid, là?
Ouais, avec quelques bises noires, etc. Ouais, ça c'est sûr, mais il faudra qu'on s'habitue un peu parce qu'on va pas vers le mieux à ce niveau-là.
Eh oui.
Mais bon, la foi.
C'est un mois des frais, mais c'est aussi un mois des vendanges dans les cantons qui la font, maintenant presque tous d'ailleurs.
Oui.
Et puis des vendanges littéraires aussi d'ailleurs.
Ah oui, d'accord. Alors, il y a des choses intéressantes ce mois.
Écoute, oui, alors par rapport aux livres qui ont été enregistrés ce mois, bon, on a une belle sélection. Évidemment, il y a des policiers, il y a même des romans... d'amour, des romans, des documentaires et autres, oui, de tout. Mais il y a trois romans dont je vais parler, dont deux Suisses, deux romans suisses, et un autre qui n'est pas suisse, mais qui est venu en Suisse, notamment à Morges, sur les quais, l'auteur était là. Et puis, parmi ces trois romans, il y en a deux auteurs qui sont connus, relativement connus, et un autre d'une nouvelle, mais qui est d'une grande fraîcheur et d'une grande qualité, et d'après ce que j'ai pu lire dans son livre, et puis peut-être qu'on va être encore surpris par elle. Mais bon, on commence. Alors, le premier, c'est un écrivain suisse connu, qui est Étienne Barillier, et le livre s'appelle « Dans Khartoum, ou Khartoum assiégé ». Alors, Khartoum, c'est la capitale du Soudan. Et puis, à la fin du 19e siècle, 1884, il y a eu, bien sûr, il y avait la colonisation, évidemment, toute cette région était colonisée. Ça, c'était un peu plus ou moins sous domination anglaise et les Égyptiens qui servaient un peu des tampons là, pour les Anglais au Soudan. Et puis, il y a un chef religieux, ça nous rappelle quelque chose, mystique, qui veut rétablir l'islam en toute sa pureté, comme il dit. Et il s'élance dans une croisade, mais comme il a ce côté guerrier, ce côté mystique, il ameute une grande quantité de personnes qui les suivent. Et il commence à vraiment ravager, vaincre les armées égyptiennes, anglaises, etc. Et il se rapproche des Khartoum. Et la ville, à ce moment-là, est défendue par un général anglais et un gars aussi assez particulier, un mélange militaire pur et dur et d'humaniste, etc. Et puis à la fin, évidemment, tous les Européens s'en vont, sauf tout un petit ramassis de personnages loufoques. Il y a un trafiquant, une sorte d'archéologue, deux femmes, etc. Un personnage qui a une histoire assez trouble en France. Et ces petits groupes d'Européens restent là. Et les chefs religieux, ce Mahdi, approchent des Khartoum. Et la catastrophe approche. Et puis cette ambiance et surtout ces échanges et puis ces mouvements religieux qui nous rappellent des éléments de l'actualité et sont très bien rendus par Étienne Barillier dans son livre dans Khartoum assiégé. Il faut savoir aussi que les dirigeants, les personnes qui dirigent actuellement les Soudans sont inspirés, appartiennent à ces mouvements mahdistes de ces chefs mahdis de l'époque. Et puis les livres dans Khartoum assiégé est disponible sous le numéro 38141. Voilà pour le premier livre, qui est donc un roman historique. Et puis le deuxième, qui est d'un auteur qu'on connaît bien, Alain Mabankou, qui était justement à Morges. Et Alain Mabankou, qui est d'origine du Congo-Brassa, comme on sait, est un écrivain prolifique, c'est un grand conteur. Ça, c'est ses dons des conteurs qu'il a, qui rend ses livres très vivants. Et en l'occurrence, c'est un livre qui a un fort contenu autobiographique. Il s'appelle « Les cigognes sont immortelles ». Il raconte l'enfance, l'adolescence d'un jeune garçon qui s'appelle Michel dans les livres, mais qui est beaucoup, ou en tout cas prend pas mal de lui, de la Mobankou. Et c'est un garçon qui est à Pointe-Noire, donc c'est pas la capitale de Congo-Brazza, mais alors avec ses parents, par son père qui peut être dur mais qui peut être gentil, avec sa mère qui est un sacré personnage avec un fort caractère, et puis tout ce qui se passe en ce moment, et là le Congo Brazza est plus ou moins dans les rayons socio-communistes, etc., comme certains des pays de l'Afrique dans les années 70, et il raconte avec beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de tendresse, et c'est assez poignant tout ce qui se passe à ce moment-là. Bon, les présidents, Marien Ngouabi est assassiné à Brazza, il y a tous les combines, tous les pouvoirs des militaires, toutes ces histoires du Congo Brazza, les rapports avec les autres pays communistes, c'est assez drôle qu'on s'est raconté tout cela. Et les guerres, tous les combats qui se passent aux alentours, et la vie de ces garçons qui apprend la vie, et surtout son rapport avec sa mère aussi, ça, c'est assez fort, les livres. Et parfois, c'est triste, mais en même temps, c'est drôle aussi, et c'est raconté vraiment comme si quelqu'un les racontait à l'oreille. Et donc, il y a ce côté politique, ce côté intime, personnel. C'est un très joli livre, et ça s'appelle « Les cigognes sont immortelles », avec le numéro 38206. Et puis le troisième livre, pour conclure cette trilogie des choix, bien qu'on sait qu'il y en a beaucoup plus, c'est d'une jeune Suissesse qui s'appelle Myriam Valli. Myriam Valli, c'est une Suissesse, elle n'a pas encore 30 ans, et elle est originaire du Jura bernois, certains diraient du Jura occupé, mais... n'entre pas dans ces discussions. Elle, c'est une fille qui est très ancrée dans les milieux artistiques, un petit peu alternative, etc. Et puis son livre qui s'appelle « Venir grand sans virgule », c'est assez drôle parce que justement c'est une petite fille qui raconte sa vie, ses parents, dans un bled. C'est pas facile, c'est pas drôle toujours, c'est un tout petit livre. Et justement, il n'y a pas de virgule. Donc, la lectrice a dû réfléchir, j'imagine. Mais en même temps, comme les phrases sont très rythmées, il y a un vrai sens musical dans les livres. Et disons que même quand quelqu'un le lit, quand on l'écoute, ça passe très bien. Mais c'est cette notion de cette fille qui essaye d'appréhender le monde par le langage et qui sait que le langage peut être un piège, que c'est aussi une manière justement de survivre, et qui voit avec une ingénuité, avec une sorte d'innocence, mais en même temps avec beaucoup d'acuité, d'intelligence qui se passe, le monde des grands, le monde des parents, comment ils essayent justement de cacher la vérité avec les mots, et en même temps que la fille, comment elle essaie d'appréhender les mots. C'est un livre très poétique, très, très doux, et en même temps assez poignant, parce que c'est pas évident, la vie dans ces bleds, le père, il est pas commode, souvent, et les livres, ils donnent vraiment, ils restituent cette fraîcheur du regard de l'enfant. Ça s'appelle « Venir grand sans virgule » de Myriam Valli, et il est disponible avec le numéro 38229. Je le recommande.
Et qu'est-ce qu'il y a en cours ?
Alors, en cours, comme toujours beaucoup, que ce soit en production, donc tout prêt à sortir récemment, bientôt, je veux dire, ou en lecture, un peu plus tard, mais qui est déjà dans... sur une bonne route.
Déjà dans le four.
Presque, en tout cas à l'entrée du four. Et bien, en parlant de four, justement, un des livres qui est en lecture, en rapport avec les fours, mais pas avec les mauvais fours, hein, avec les bons fours qui font des bonnes choses, avec des belles odeurs, c'est un livre qui traite de l'histoire d'un magnifique pâtissier. Mais pas seulement. Il s'appelle Loin de Sils Maria. C'est-à-dire quelque chose, Sils Maria. Hein, c'est,
ouais. Oui, oui.
Ah, c'est un grisson. Mais là, on est au XVIIIe siècle. Ça commence au grisson, mais ça finit pas là. Et à l'époque, c'est la République des grissons. Très beau pays, hein, les grissons, on connaît. Il y a des grands écrivains qui sont établis là-bas. Mais c'était quand même un pays assez pauvre, comme une bonne partie de la Suisse au XVIIIe siècle. Et on oublie ça parfois. C'est une terre d'émigration plutôt que d'immigration. Et dans cette république des grissons magnifiques, avec des beaux lacs, avec des magnifiques paysages, etc., il y avait un petit berger très pauvre qui s'appelle Jean Josty, qui trime grave. Puis son patron, il n'est pas commode, hein, il est non seulement il est, voilà, il exploite, il tabasse gentiment, etc. Et puis, il s'enfuit. Il s'enfuit, il est petit, il a 11 ans. Il traverse, comme on verra, on va parler de ces livres qui parlent de la vie dans ces montagnes suisses. Et il s'enfuit à pied. Et à l'époque, il n'y avait pas les trains qui traversaient les montagnes, etc. Et il affronte un sacré paquet de problèmes, dont la faim, bien sûr, le froid. Et il arrive incroyablement à Magdebourg, qui à l'époque faisait partie du royaume des Prusses, parce qu'il a un cousin, qui s'appelle Jacob, qui est confiseur. Et Jacob va le former. Lui, il va vraiment adorer ça. Il va bosser jour et nuit pendant des années et des années, mais pas de dimanche, pas de vacances. Et il apprend tout. Il maîtrise. Fait qu'on n'a pas forcément l'idée d'associer l'Allemagne aux pâtisseries raffinées, mais il vraiment apprend à tout faire. Et petit à petit, il épargne de l'argent. Il devient compagnon. Vous savez que le compagnonnage, c'est vraiment un monde d'excellence dans son domaine. Et à la fin, il s'établit à Berlin. Et à Berlin, il ouvre. Après, ça sera une chaîne, ça sera un empire presque. Mais le noyau, c'est une confiserie, c'est un salon d'été, un resto confiserie qui s'appelle Josti and Company, Justin et compagnie, et qui il va fournir la cour et va être connu, non seulement en Allemagne, mais au-delà. Et il va devenir les cafés les plus célèbres d'Europe dans les années 1820. Café Josti and Company. Les cafés où tous les grands d'Europe vont manger quand ils passent par là, et puis ils vont commander des pâtisseries chez lui. Et il se trouve que, j'ai appris récemment, le café a fermé, mais il vient de rouvrir, il n'y a pas longtemps, à Berlin, les cafés Josti au même endroit, avec un concept un peu nouveau, mais ça s'appelle toujours le café Josti à Berlin. Et puis c'est l'histoire de ces garçons qui étaient en Suisse, donc qui étaient des Grissons, Johann Josti, et le livre s'appelle « Loin des Sils Maria », et l'auteur, c'est Michel Quint. Donc, il est en lecture. Ça, c'est pour l'un des livres qui est plein de sucre, mais en même temps des sueurs aussi, parce que c'est un livre historique. C'est un livre qui est très fort, comme on peut réussir, et comme on peut réussir dans la douceur, si on peut dire. Mm-hmm. Puis, le deuxième livre. Alors, il y a un côté historique aussi, mais là, on est un peu dans un autre contexte. Et on va de l'Islande au Levant, au Maghreb, parce que c'est un livre qui est celui-là en lecture. Le premier, il est déjà en prod, donc le Loin de Sils Maria va être prêt tout soudain. Ouais, oui, je dirais au milieu de ce mois, du mois qui vient, d'octobre. Et puis, l'esclave islandaise qui est en lecture, c'est un livre d'une islandaise, justement, un auteur, qui s'appelle Steinum Johannes Dottir. C'est que les Islandais n'ont pas ce que nous on appelle nom de famille, hein, ils sont ce qu'on appelle les patronymes. Donc Johannes Dottir, ça veut dire la fille de Johannes. Donc c'est toujours, c'est pour ça qu'on sait que c'est une fille, en principe. Et donc il s'agit d'un livre, l'esclave islandaise, qui, comme je disais, s'est basé sur des faits réels, parce qu'en 1627, donc au XVIIe siècle, au sud de l'Islande. Tu sais, l'Islande, même maintenant, c'est dur. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du tourisme parce que c'est joli, les aurores boréales, les sources chaudes, les Islandais aussi, qui aiment la poésie, etc. Mais la vie est dure. Il y a les pêcheurs, il faut pêcher quand on peut, pêcher avec accent circonflexe, bien sûr, et quand on peut, à la bonne saison, avec l'accent aigu, on peut pêcher à tout moment. Et donc, il y a toutes ces femmes qui restent à la maison, les hommes qui vont pêcher, et à un moment donné, il y a les Turcs qui vont jusque là-bas et font des raids. Il y a des pirates levantins, comme on les appelait, qui font des raids jusque là-bas. Ils avaient besoin des blondes costaudes, etc. Et ils vont jusque là-bas, c'est un fait historique. Et ils raflent 400 Islandais, notamment des Islandaises d'ailleurs, et ils les ramènent. Et ils les vendent comme esclaves, qui sont très appréciés de par leur exotisme. Et au Maghreb, notamment, une femme qui est un peu la ligne, qui est le fil conducteur de l'histoire, qui est mise au service d'un dey, donc d'un petit chef, et ses quatre épouses. Bon, il a déjà quatre épouses, mais elle est, on va dire, à leur service, service de tous et de toutes. Et dans Alger. Donc elle va en Alger, et Elle, évidemment, elle rêve de retourner, de revoir son mari, pêcheur, islandais, et probablement poète aussi, tous les Islandais, mais qui est loin. Et puis elle est là-bas, dans la chaleur, en Alger, mange du couscous, etc. Ça lui manque un peu la morue et autres délices du Nord. Et le livre, qui est basé sur des grandes sources historiques, et en même temps un roman, c'est romancé, est très intéressant parce que c'est un épisode peu connu de l'histoire. C'est Red qui menait ces pirates levantins jusqu'au nord pour amener des femmes du nord. Et puis ça produit des brassages. C'est pour ça que parfois on trouve des gens plus ou moins blonds dans ces contrées. Il y a eu plus de brassages de ce qu'on pense à cette époque-là, 17e, 18e siècle. Voilà pour ces deux livres qui sont en prod parmi tant d'autres, bien entendu.
Et pour le futur?
Pour le futur, il y a comme toujours, sur la table, des livres de tout genre intéressants. J'aimerais parler d'un qui vient presque de sortir, qui attend anxieusement un lecteur et une lectrice, qui est le dernier livre de Salman Rushdie. C'est lui qui a écrit les versets sataniques, qui est sous les poids, l'épée de Damoclès d'une fatwa, d'ailleurs, à cause de ce livre.
Mais, ça fait 10 ans, en tout
ouais,
cas.
Ouais. Et puis, lui, il habite aux États-Unis maintenant. Et justement, son dernier livre, qui vient de paraître en français, s'appelle La Maison Golden. Alors, justement, ce livre, je dois dire que, déjà pour dire, j'avais un petit peu d'appréhension, parce que le dernier livre de Salman Rushdie m'a moins touché. Là, ça m'a déçu en bien, comme on dit en Suisse. C'est un bon cru de Salman Rushdie. Et c'est l'histoire d'une famille et d'un garçon qui habite, ils habitent au village, donc dans un coin du Greenwich Village à New York, qui est un peu préservé, il y a des gens de classe moyenne, supérieure même, et une famille très riche, les Golden, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, et se donnent des noms imposants, latins, gréco-latins, et c'est des gens cultivés, mais en même temps un peu louches, surtout les messieurs, les patrons, et Golden, qui en fait s'appelle Néron, il a pris le nom de l'empereur romain, tu peux imaginer déjà. Ouais. Et donc, à la fin, on va découvrir petit à petit qu'il vient d'Inde, et il y a des choses louches qui se passent. Alors, il y a trois fils complètement étranges. Il y en a un qui est autiste, l'autre qui est génial, l'autre qui est artiste, et un peu génial aussi, mais un petit peu trouble, et le troisième qui a des troubles d'identité, parce que justement il ne sait pas si c'est un garçon qui se sent fille mais qui aime les filles, mais tout en étant, bref, c'est compliqué. Et justement tout cela se passe entre le gouvernement Obama, le début du gouvernement Obama, des gouvernements Obama, et les tout débuts de l'ère Trump, qui est appelé les clowns, bien sûr, et donc dans les livres. Et donc là, il y a un mélange de, parce que tout est raconté par un garçon, un voisin qui devient très proche de la famille Golden, qui est un garçon qui étudie qui fait du cinéma, qui veut devenir réalisateur, et qui est intelligent mais un petit peu ingénu aussi. Et donc qui côtoie ces gens, et les trois enfants, Petia, Lucius Apuleius, le deuxième fils qui s'appelle Apu, et puis Dionysos qui est celui qui a un peu des troubles de l'identité sexuelle, qui s'appelle Di, et donc mais qui est un garçon très intéressant aussi. Et puis là, il profite pour d'un côté parler politique américaine en général, parler société, parler dérives, société de l'information, les connivences parfois entre la mafia, les pouvoirs financiers, les terrorismes. On apprend des choses d'ailleurs à ce niveau-là, des attentats qui sont passés en Inde, à Bombay. Et puis on apprend aussi beaucoup de choses sur toutes ces notions actuelles de l'identité. et toutes les trans choses qu'il y a. Il y a au moins 50 définitions de toutes les personnes. Et tout ce monde actuel qui déconstruit un peu les concepts traditionnels qu'on a sur les choses. Et sont très bien donnés avec de l'humour. Il y a de l'érudition. Il y a parfois, tu sais, il y a des petits moments où on s'est dit, bon, tu aurais pu écrire un petit peu moins. Mais en général, c'est donné avec beaucoup de panache et puis d'humour et de culture. Donc c'est un bon cru. Et il atteint nos lecteurs les derniers livres de Salman Rushdie, La Maison Golden. Voilà pour ce qui nous attend, en plus de tous les romans de la rentrée littéraire, d'ailleurs, dont on va parler très brièvement.
Oui, alors on peut continuer. Donc.
Mais oui.
Quels sont les nouveautés, quelles sont les tendances, peut-être?
Ah oui, écoute, la tendance, ça, on va voir, ça profile. Il y a des romans, évidemment, comme toujours, qui se répètent. Il y a toujours, on trouve 3, 4, 5 romans qui apparaissent dans 4, 5 prix littéraires. Donc maintenant, le dernier dont on a annoncé la sélection. On est dans les premières sélections, donc c'est une présélection, les premières sélections de prix littéraires. Et on vient de donner hier soir celui de l'Académie française, qui est en général le dernier qui est lancé. Et puis, notamment, là, il y a justement un livre, les derniers livres de Metin Arditi qui est inclus, donc qui est un Suisse dedans, celui de l'Académie française. Mais en attendant, parce que les tendances, ça se profile, il y a deux, trois groupes d'idées qui viennent et des romans qui sont un peu partout, mais il y a une affaire, je vais parler juste parce que on voit vraiment comme ce monde qui est assez compliqué. C'est quelque chose qui s'est passé, qui a soulevé un tollé, à mon avis légèrement excessif, bien qu'utile, que pertinent. Et c'est le fait que les prix Renaudot, qui est quand même un prix réputé, parce que c'est un peu l'alternative au Goncourt. Et les Renaudot a été justement créé pour contrer les Goncourt, en certaine manière, qui étaient devenus trop institutionnels et trop magouilleurs, parfois, selon certains. Et il se trouve que dans la sélection du prix Renaudot, il y a un roman d'un écrivain tout à fait convenable, c'est un écrivain franco-israélien d'ailleurs, qui s'appelle Marco Koskas, et qui a déjà publié chez Grasset, qui a déjà publié chez Tessud, mais son dernier livre, en principe, il l'avait envoyé, qui s'appelle « Bande de Français ». Bande de Français. Alors, c'est la bande de Français. Le titre est exprès un petit peu fort parce qu'il envoie, enfin, c'est l'histoire d'un groupe de Français. Hein. Oui, un groupe de Français qui est d'origine juive, qui vont s'installer en Israël, mais toute cette vie qui semble idéalique, mais qui ne l'est pas tellement. Et il se trouve que son manuscrit a été refusé par 3 maisons d'édition. Ah oui, il s'est fâché, il dit bon, d'accord, je vais faire de l'auto-édition. Alors, il s'est auto-édité. Dans une maison inventée qu'il a appelée Galigra Sud, Galigra Sud, mais qui l'a donné pour diffusion à Amazon. Alors quand tu donnes un livre chez Amazon, il y a que chez Amazon que tu peux l'avoir.
Ah ouais.
D'accord. Et donc les librairies, tu peux pas les trouver chez Payot, tu peux les trouver et les candidats au Renaudot. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas Amazon? On ne peut pas avoir les livres. Mm-hmm. Comment on sait ce qui est dans ces livres, si les candidats Renaudot? Ça pose un problème.
Ouais, c'est une façon de contourner. Mais c'est aussi là qu'on voit que même des auteurs qui ont été publiés sont pas forcément... C'est jamais acquis, en fait.
Exactement. Ouais. Mais donc, ça pose des problèmes. Tous les libraires, les éditeurs... Alors, c'est un peu curieux, parce que vous savez que les éditeurs, bon, et eux-mêmes, ils sont pas trop parlé parce qu'ils l'ont refusé. Mais les libraires, ils ont dit, oui, mais nous, on aimerait avoir les bouquins. Mais on peut pas parce que c'est chez Amazon, c'est pas chez nous. Et donc, comment les gens vont savoir si les prix est bon? Et bon, si jamais il a les prix, c'est un peu embêtant parce que tout le monde voudra aller chez Amazon et pas chez... Donc, ça crée, c'est vrai que des grands problèmes de société qui sont actuels. Lui, il a dit, bon, ma foi, j'ai essayé, mais vous savez qu'il aurait pu choisir une autre voie. Et donc, voilà, ça, c'est des petits scandales, entre guillemets, avec minuscule, parce que c'est pas un grand scandale, mais qui trouble les petits mondes des prix littéraires de cette rentrée.
C'est un petit peu une petite vengeance, ça.
Ouais,
on pourrait dire ça comme ça.
Ouais, oui. Hein? Alors voilà, donc ça c'est pour l'histoire un peu croustillant, pour autant que ce soit croustillant. Mais alors je peux pas vous dire encore de quoi traite concrètement les bouquins, puisque je l'ai pas lu. J'essaye de ne pas aller chez Amazon par principe, mais par ma foi, s'il continue, on va devoir quand même par devoir d'information les commander. On tiendra informé. Mais la prochaine fois, je vous promets qu'on parlera des choses un peu plus consistantes par rapport au prix littéraire et aux tendances qui se profilent déjà.
D'accord. Alors, ben, on se retrouve à fin octobre.
Mais oui, avec plaisir. Avec plaisir.
Merci. Bonne rentrée.